C'est l'heure de la revue de presse de Radio Classique avec vous, Marc Tédé. Bonjour Marc.
Mais bonjour François et bonjour à tous.
On commence avec une rencontre dans La Croix, l'Hebdo.
Et oui, c'était en février dernier, celle de Fabrice et Maya, un père et sa fille. Il a 52 ans, elle en a désormais 20. Ils ne se sont pas vus depuis 7 ans et demi. Lui a été condamné pour violence intrafamiliale. Il a passé 4 ans en prison, suivi d'une interdiction d'entrer en contact avec sa famille. La dernière fois que sa fille a entendu le son de sa voix, il menaçait de la tuer, elle et son frère. Alors âgé de 13 et 9 ans, si leur mère ne rentrait pas au domicile familial, il était armé sous l'emprise de la cocaïne. Tous les deux ont participé à un processus de médiation, de justice restaurative qui fait dialoguer les auteurs d'infractions pénales et leurs victimes. Celle-ci a duré 2 ans avant ce premier rendez-vous. La Croix l'Hebdo a suivi chaque étape. Aujourd'hui, la fille peut dire à son père les yeux dans les yeux, on était gosses, on était morts de peur avant de conclure cette première rencontre de 2 heures et j'ai encore des reproches à te faire.
La justice restaurative donc dans La Croix l'Hebdo. Tout autre chose, la presse se passionne toujours pour les déboires du couple Le Maire-Macron.
Oui, Libération a choisi de mettre en une photo des deux hommes. Le quotidien ne précise pas quand date ce cliché, mais une chose est sûre, elle illustre la colère, la tension, mais aussi le rapport hiérarchique entre les deux hommes. Entre eux, c'est irrationnel, titre Le Quotidien en pages intérieures. Dès qu'il s'agit de Bruno Le Maire, Emmanuel Macron a une légère tendance à la surréaction, lit-on dans Libération, pour qui le ministre de l'Économie se sait sur un siège éjectable, bouc émissaire d'un désastre aux européennes ou d'une rétrogradation de la France par les agences de notation. Un ministre explique, il a fait de la rigueur budgétaire un objet politique, c'est son gilet de sauvetage. Illustration dans l'opinion où le dessinateur CAC met en scène les deux hommes devant la courbe croissante du déficit, celle déclinante des intentions de vote Renaissance aux européennes. On peut conclure que les courbes se croisent, fait dire le dessinateur à Bruno Le Maire.
Des tensions bien réelles auxquelles les deux hommes voudraient maintenant mettre un terme. C'est ce que souligne de son côté Le Parisien.
Macron veut resserrer les rangs, titre Le Quotidien, qui rapporte les propos tenus hier par le ministre de l'Économie devant les chefs de parti de la majorité, puis devant des députés macronistes également. Ma position, celle d'un budget rectificatif soumis à l'Assemblée, n'a pas été retenue. Dont acte, il faut désormais faire bloc autour du président. À partir du moment où il fait un choix, on l'applique, aurait ajouté Bruno Le Maire, c'est à lire dans Le Parisien.
Également à la une de vos journaux ce matin, le projet de loi sur la fin de vie présenté hier en Conseil des ministres.
Mitterrand promettait de changer la vie, Macron veut changer la mort, ironise les échos dans un portrait de Catherine Vautrin, la ministre en charge du texte sur la fin de vie. Ne parlez pas d'euthanasie ou de suicide assisté, l'exécutif préfère l'aide à mourir. Le terme est d'ailleurs entre guillemets à la une du Monde daté d'aujourd'hui. À force de lisser le texte, l'exécutif se trouve accusé de masquer la réalité, peut-on lire dans Le Quotidien.
À l'étranger, la ville de New York va payer 17,5 millions de dollars pour avoir forcé des femmes arrêtées par la police à enlever leur voile.
Oui, c'est à lire dans la matinale du Monde et sur son site. Cet accord, qui doit encore être approuvé par un juge, est la conséquence d'une action collective qui a été lancée en 2018 par deux femmes musulmanes. Il bénéficiera à 3600 personnes obligées de se découvrir pour être photographiées lors de leur détention. Les deux femmes ont obtenu réparation en vertu du premier amendement de la Constitution américaine qui protège la liberté d'expression et la liberté religieuse. Pour s'y conformer, la police new-yorkaise a déjà modifié sa politique. C'était en 2020. Les personnes religieuses peuvent désormais être photographiées tête couverte si leur visage n'est pas masqué. Le changement concerne toutes les religions. Cela va de la kippa au turban pour les sikhs.
Et puis c'est un débat de plus en plus animé à l'approche des Jeux Olympiques. Pourra-t-on se baigner dans la Seine? La Croix y revient longuement ce matin.
Et Le Quotidien prend le temps de faire le tour de la question après l'alerte lancée lundi par l'ONG Surfrider Foundation sur la qualité des eaux de la Seine. Le préfet d'Île-de-France invoque en réponse de fortes précipitations et souligne la possibilité de décaler les épreuves si nécessaire. On connaît le débat, mais La Croix nous apprend d'une part que des intoxications arrivent fréquemment, comme à Hong Kong le 24 mars dernier lors de la première étape de la Coupe du Monde de triathlon. long et contrairement aux tests réalisés à Paris, des athlètes donc ont été contaminés à Hong Kong et par ailleurs ces athlètes se préparent à une telle hypothèse.
Et de quelle manière ?
Les explications, c'est Stéphanie Gros, ancienne triathlète et responsable désormais de l'équipe de France olympique depuis 2012, qui les détaille dans La Croix. Nous prenons des probiotiques et des boissons chargées en chlore pour tapisser l'estomac avant la course. Nous avons aussi pris pour habitude de ne pas participer à la reconnaissance du parcours la journée qui précède la compétition pour ne prendre aucun risque. Cette question ne perturbe absolument pas la préparation de nos athlètes, assure-t-elle. Avant de conclure, pour eux, ce n'est pas un sujet. Si nager dans la Seine est en revanche une préoccupation pour les nageurs et les triathlètes, ce serait plutôt en raison de la nage à contre-courant, ah oui, nous dit La Croix.
Ça joue aussi, effectivement. Bon, je vous laisse aller prendre une petite boisson chargée en chlore, mon cher Marc Tédé. La revue de presse de Radio Classique à retrouver également en podcast. Et puis je réponds à cette auditrice qui nous demande quel est le nom de l'écrivain de l'Académie française qui vient d'écrire un livre sur les accords de Munich. Eh bien, c'était Maurizio Serra. Il était avec nous, effectivement, à 8h15. Là aussi, à retrouver en podcast, Maurizio Serra. Et le livre s'appelle Munich 1938, La paix impossible. C'est chez Perrin. Il est 8h37. Dans un instant, un autre écrivain, peut-être un jour académicien, François-Olivier.